Fréquence protestante. La valeur de l'homme. Emmanuel Taïeb.
Les leçons de Charlie. Bonjour à tous et toutes. L'année 2015 a été marquée en France par l'éruption d'une violence terroriste d'inspiration religieuse et politique. Ces événements peuvent être compris comme une séquence historique sans précédent. Avant le 13 novembre, janvier 15, comme on pourrait l'appeler, comme l'appelle mon invité Pascal Horry, aura vu l'assassinat de toute une rédaction, celle de Charlie Hebdo. L'assassinat de sang-froid de policiers et la haine antisémite guidant le bras armé du meurtrier de l'hypercachère. Cette séquence constitue une épreuve pour le lien social qui a été en quelque sorte retrempé par la marche du 11 janvier qui a rassemblé 4 millions de personnes dans tout le pays, là aussi un chiffre sans précédent. Une épreuve pour la pensée également, obscurcie par la sidération, la colère et la douleur. Brutalement, le public français a dû se familiariser avec des noms et des concepts qu'il connaissait mal. Daesh, islamisme, sunnisme, radicalisation, déradicalisation. Il a vu aussi l'émergence d'une frange du pays plus souterraine sur les réseaux sociaux qui, derrière Dieudonné ou Alain Soral, diffusait un message haineux et semblait faire un pas de côté lors des célébrations nationales. Pour comprendre le présent, il faut en déplier la trame historique, historiciser les phénomènes, en montrer la genèse et le développement. Janvier 15 est un événement national que l'histoire peut donc saisir, mais aussi un événement international suivi partout dans le monde que cette fois la géographie politique peut saisir. L'ouvrage de Pascal Horry, Ce que dit Charlie, 13 leçons d'histoire, s'emploie à donner une profondeur historique à la violence de janvier 2015, à éclairer certains points aveugles des sociétés occidentales et de leurs intellectuels face à la nouveauté que constitue le projet islamiste et à en proposer une histoire immédiate dans un livre d'intervention. Il s'agit aussi en filigrane de donner du matériel aux historiens du futur pour leur indiquer comment leurs collègues du présent ont perçu et analysé les événements. Avec nombre d'analyses stimulantes et de belles formules, dont celle-ci que j'aime particulièrement sur les justifications religieuses à l'action terroriste, Dieu a de l'avenir dans l'ego de l'homme. Bonjour Pascal Horry.
Bonjour Emmanuel Taïeb.
Pascal Horry, vous avez eu plusieurs vies, mais dans celle d'aujourd'hui, vous êtes professeur d'histoire à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vous êtes aussi un homme de radio, intervenant régulier sur France Culture et auteur de nombreux ouvrages, dont une réédition d'un livre colossal sur le Front Populaire. Mais le livre qui nous intéresse aujourd'hui est celui qui porte donc sur janvier 2015, Ce que dit Charlie, 13 leçons d'histoire, qui a été publié aux éditions Gallimard Le Débat en 2016. Alors je voudrais qu'on reprenne avec vous une partie de ces leçons d'histoire et de leçons du présent que vous proposez dans cet ouvrage. Et une première leçon pourrait être au fond la question de la qualification des événements. Donc vous êtes historien, votre livre est celui d'un historien du présent. Qu'est-ce qui confère aux événements de janvier 2015 un statut historique ?
C'est m'amener à me resituer, vous le savez bien, vous-même, dans une généalogie, celle de la réflexion des historiens sur l'événement, qui a été en particulier en France réactivé il y a déjà presque un demi-siècle par Pierre Nora, à un moment où l'histoire standard dominante, l'histoire de l'école des annales, que je ne rejette absolument pas à cette minute même, je le précise tout de suite aux auditeurs, avait eu tendance à me mettre en lisière, quoique, après tout, quelqu'un comme Georges Duby avait surpris son monde, en quelque sorte, en disant « Mais l'histoire bataille, ça dépend comment on l'a fait, et moi, Georges Duby, je vais faire un livre sur une bataille, et en plus une bataille, j'allais dire, de livres de classe, la bataille de Bouvines, et je vais vous montrer qu'on peut faire de l'anthropologie, être structuraliste avec l'histoire bataille. » Donc, de l'eau avait coulé sous les ponts, et progressivement, l'événement avait été revalorisé comme, au fond, une sorte de d'émergence de structure, c'est-à-dire que c'est pas du tout contradictoire que de dire qu'en l'espace de quelques secondes, parfois, un régicide, ça dure quelques secondes peut-être, en l'espace de quelques heures, là quelques jours, puisque effectivement, dans le cas de janvier 15, on peut revenir sur le qualificatif, en effet, vous avez eu un premier ensemble d'événements, un second ensemble d'événements connectés entre eux, et puis finalement, le vrai grand événement pour moi, parce que celui-là était imprévisible, alors que les attentats étaient prévisibles au fond. Ça montait contre Charlie. Et j'allais dire, depuis 1979, nous sommes dans une tendance qui fait que autour de l'islam se constituent des fractures qui peuvent être sanglantes. C'est pas quand même d'hier, c'est d'avant-hier. Non, ce qui était imprévisible, c'est la manière dont la société française allait réagir. D'où, effectivement, les marches républicaines de dimanche, mais aussi de samedi, mais aussi ce qui s'était passé dès le soir même. Donc, l'événement est constitué de tout ça. C'est un petit peu comme si, un peu comme un phénomène de volcanisme, la lave de la structure avait émergé, se solidifiait à la surface, mais on appelle ça un événement. Mais en réalité, ça nous permet de dire, voilà, un certain état de la société, voilà ce que c'est que ce que l'on appelle le religieux aujourd'hui, voilà ce que c'est que ce que l'on appelle le terrorisme aujourd'hui, et remonter dans le temps, ça c'est effectivement le travail de l'historien.
Janvier 15, vous proposez un peu ce label-là, c'est calqué sur 9-11, 11 septembre ou mai 68 pour un événement moins tragique, c'est cette idée-là, c'est-à-dire un moment, une datation très précise, mais qui aussi dit quelque chose d'un certain état de la société. Où en sommes-nous en janvier 15?
Oui, parce que comme je suis un vieillard, j'avais 20 ans en 68. Non, mais vous imaginez, j'avais 20 ans en 68, c'est terrible. Et donc, déjà, j'avais été très étonné de l'embarras que nous avions, nous, enfin, moi comme les autres, mais en particulier la société, à nommer ce qui se passait. On disait les événements. On disait les événements de 68. Et peu à peu, on a appelé ça mai. Alors que mai, évidemment, d'une certaine façon, là aussi, c'est une cristallisation. Mais qu'est-ce qui se passe en juin? Qu'est-ce qui se passe au Festival d'Avignon en juillet? J'y étais, etc. Bon, donc... Les événements, c'était à la fois l'aveu d'une perplexité, en même temps d'une fascination, et puis du fait qu'il fallait quand même poser ça comme sortant de l'ordinaire. Donc on est sorti d'une forme d'ordinaire à cette occasion-là, et janvier 15 renvoyait aussi à d'autres traditions historiographiques, et je pense que c'était un terme qui était surtout destiné à éveiller chez le lecteur du livre, qui en effet a été écrit à chaud, qui a été écrit, il faut le préciser, avant novembre, oui, avec la perspective que 1 novembre allait avoir lieu, en novembre, en décembre ou en janvier, et entre parenthèses, nous parlons là en ce moment, mais qui sait s'il n'y aura pas un troisième acte événementiel, etc. Bon, donc, dans cette perspective-là, je me disais, posons quand même ce moment-là, et voyons comment on peut en extraire des leçons d'histoire, mais pas au sens où le professeur dirait voilà la vérité, non, mais rappellerait que tout ça, ça a un passé, ça se situe dans le temps. Et en fait, l'historien, il travaille non pas sur le passé au sens de refroidissement, de cristallisation, il travaille sur le temps. C'est-à-dire quelque chose de labile, quelque chose de fluide.
On peut travailler effectivement sur la fluidité et puis sur l'événement. Et une des particularités qui fait que peut-être les attentats de janvier 2015 font rupture, c'est qu'ils apparaissent sans précédent. En tout cas, l'attentat contre Charlie Hebdo, l'attaque de toute une rédaction, ça c'est nouveau. Je voudrais qu'on en vienne justement à la deuxième leçon, qui est la question du dessin de presse et du statut du dessin de presse. Vous avez des pages très éclairantes là-dessus. Vous dites qu'à la fois... Un dessin est en même temps un texte et une image, et en même temps peut être perçu apparemment comme un blasphème. Je voudrais qu'on dise un mot de cette espèce de... Alors peut-être premièrement l'assassinat de toute une rédaction, et puis deuxièmement cette espèce de retour du blasphème qui n'est pas compatible avec une société sécularisée, et vous en montrez les évolutions. Alors peut-être d'abord sur l'attentat contre toute une rédaction, c'est une nouveauté absolue, même du temps de la Troisième République où les journaux politiques étaient très virulents, il n'y a jamais eu ça.
En tous les cas dans l'histoire française, en tous les cas dans l'histoire européenne, sans doute dans l'histoire occidentale, peut-être dans l'histoire de la planète. J'ai interrogé mes collègues spécialistes de l'histoire des médias, ils n'avaient pas d'exemple à me citer immédiatement. Les journalistes, on les arrête, on les déporte, on peut les assassiner individuellement. Le massacre à la Kalachnikov ou par un autre instrument de cet ordre d'une rédaction, je n'en vois pas de précédent. Mais plus généralement, ça a permis de comprendre pourquoi liberté d'expression, par exemple, a été un slogan fédérateur. Un slogan, c'est très important pour un historien ou pour un politologue. C'est-à-dire que slogan, c'est le cri de ralliement des clans écossais au XVIIIe siècle. C'est du Walter Scott, tout ça. Donc, c'est quelque chose de très fédérateur, un slogan. Et liberté d'expression, c'est un drôle de slogan quand on y réfléchit. C'est un peu académique, c'est droit de l'homme, etc. Mais pourquoi? Parce que dès, je dirais, 14h, 15h, 16h, place de la République, ou en tous les cas dans les environs de la attentat, on a vu se regrouper des élèves d'école de journalisme, des journalistes eux-mêmes, des dessinateurs, des gens des médias. D'ailleurs, Je suis Charlie et l'œuvre spontanée vers 13h ou 14h dans l'après-midi de mercredi du directeur artistique de Styliste, par exemple. Donc on voit très bien comment les gens des médias ont perçu 5 sur 5, et je suis ici à la radio, la traduction, c'est une rédaction qu'on assassine. Ah ouais. C'est pas simplement un événement parmi d'autres, c'est pas simplement un attentat terroriste de plus, etc. Alors on peut dire aussi que c'est presque trop valorisant pour l'artiste et pour le journaliste, et que on a peut-être fait pas assez pour les enfants assassinés à Toulouse, hein, c'est une polémique récurrente, mais je constate que la société a fonctionné comme ça. Et vous vous rappelez d'ailleurs sans doute comme moi la différence de sensibilité entre le moment où vous disiez il y a 11 morts et tant de blessés, et puis le moment où vous commencez à donner des noms. Volinsky, Cabu, et là ils avaient une personnalité, c'était souvent des vedettes déjà, une demi-douzaine était vraiment très connue. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que le moins connu, c'était Honoré, qui du coup s'est trouvé paradoxalement honoré par ça, c'est-à-dire qu'il a rejoint les vedettes, si j'ose dire, avec son corps défendant.
Ouais, dans ce panthéon mortifère de ce moment-là.
Alors précisons que le dessinateur de presse, c'est ce que j'essaye de montrer dans ce chapitre, c'est à titre d'exemple, et puis on va peut-être pas s'éterniser sur chacun de ces chapitres, je l'imagine, mais le dessinateur de presse, ce qui m'a frappé, c'est qu'il faut pas être en quelque sorte irénique, bénisseur, voire bisounours. C'était quelqu'un qui était à la fois artiste et journaliste, et dans les deux cas, dévalorisé. Parce qu'il était en bas de la hiérarchie des journalistes, par rapport au grand reporter, à l'éditorialiste, il était très très bas, et dévalorisé dans la hiérarchie des artistes, c'est tout à fait clair. Parce que c'est le dessin, c'est pas la performance, c'est pas la grande peinture, c'est pas la fresque, etc. C'est le dessin périodique, reproductible, c'est le comique. Donc vraiment, il a tout faux. Et puis voilà que brutalement, ces dessinateurs de presse, leur carte de presse était signée dans le sang, par le sang. Et là, effectivement, on a senti que les médias eux-mêmes, qui se sentaient agressés, je ne dis pas qu'ils se sentaient honorés, mais étaient obligés d'honorer ces morts qui étaient un peu eux, quoi.
Sur la question du blasphème, il y a eu une perception, il y a eu des polémiques autour de Charlie Hebdo assez vite, notamment au moment de la publication, de la republication des caricatures du Dylan Postens à ce moment-là, il y a quelques années. Il y a eu un premier attentat, la rédaction avait été attaquée au cocktail Molotov et en partie dévastée. Il y a eu depuis le début une espèce de, en tout cas du point de vue des tueurs et d'une partie de la population, une perception très particulière de ce que produisait Charlie Hebdo, assimilé à de l'islamophobie, alors qu'on est dans une tradition antimilitariste, libertaire, de bouffeur de curé. C'était ça. Et donc ça a été perçu très vite comme, par certains, comme blasphématoire. Or, le blasphème n'est pas une notion d'une société sécularisée, et en tout cas ne figure pas évidemment dans le droit français. Donc il y a une perception très particulière du
alors,
dessin.
Alors, ça ne figure pas, ou je dirais plus, dans le droit français. Ça y a figuré d'une certaine façon sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire que ces sociétés chrétiennes qui sont aujourd'hui en situation d'agresser, d'assiéger et de libéraux ont eu leur époque
plus dure,
disons intransigeante, intolérante, c'est tout à fait évident, et c'est pas si loin que ça. La condamnation de la liberté d'expression que je citais tout à l'heure a été récurrente chez les papes jusqu'à la fin du 19e siècle à peu près. Il y a qu'à lire Pie VI ou Pie VII, les droits de l'homme, non, et les devoirs à l'égard de Dieu. Et quant à l'iconoclasme, on sait qu'il y a une tradition catholique, protestante de l'iconoclasme, il n'y a pas que l'islam. Bon. D'un autre côté, je pense qu'il y a une sorte de dialectique du temps et de l'espace. Dans l'espace, il faut bien voir que ces dessins, grâce à Internet en particulier, ont surgi sur des terrains qui n'étaient pas préparés. C'est-à-dire que vous avez tout à fait raison de dire à l'instant que la culture française était préparée. D'ailleurs, regardez les procès qu'on faisait à Charlie. Charlie les gagnait. Bah oui, au départ, parfois il avait pu en perdre, mais alors, il n'arrêtait pas de gagner ses procès. C'était les intégristes catholiques qui les perdaient. Et d'une certaine façon, ils étaient préparés à ce genre d'attaque. Ils n'étaient pas préparés à ce que les damnés de la terre viennent frapper à leur porte avec une Kalachnikov. Et d'ailleurs, il y avait une division au sein de Charlie là-dessus. Hein, ceux qui considéraient que c'était allé, ils étaient eux-mêmes allés un peu trop loin, puis ceux qui disaient mais non, pourquoi on attaque les curés, on peut attaquer les imams. Et ça, c'est vraiment à la limite une sorte de preuve. Par le sang, une fois de plus, qu'on est vraiment dans une culture planétaire, global. Et puis, vous avez un phénomène temporel, et je citais 1979, Roménie, etc. Depuis ce moment-là, nous sommes entrés dans une logique géopolitique où la question de l'islam est posée. Bien entendu, l'islam n'avait pas disparu, mais c'était pas central comme ça l'est devenu. Et je pense fondamentalement qu'on a redécouvert avec l'islam la centralité d'une certaine définition, seulement, du religieux.
Qui serait un religieux très attentif.
Totalisant, pour ne pas dire plus.
Intolérant.
Intolérant, mais qui tout simplement parce qu'il n'y a pas de place pour l'erreur. C'est ce que dit certainement un ayatollah standard, mais c'est ce que disait Pie VI devant les droits de l'homme de 89, en disant mais qu'est-ce que c'est que ces droits de l'homme? On ne peut pas laisser s'exprimer l'erreur, il n'y a que la vérité. Bon, ça c'est une logique qui, entre parenthèses, a été celle des sociétés humaines pendant des millénaires.
Oui, et des régimes totalitaires récemment,
bien sûr,
où il y avait la vérité.
Qui sont la forme laïcisée de ça.
Des religions politiques.
C'est tout à fait. clair.
Restons sur cette question de la liberté d'expression. Une des leçons que vous en tirez dans votre ouvrage, en tout cas, c'est qu'en démocratie, la liberté d'expression n'est pas absolue, parce que la démocratie est finalement hostile à l'absolu. Je vous cite, la liberté moderne, étrangère à l'absolu précisément en tant qu'elle est moderne, n'existe pas sans limite. Donc effectivement, poser des limites à la liberté d'expression, c'est se prémunir contre cette espèce de vérité envahissante ou contre un propos qui serait totalitaire. C'est-à-dire qu'il faut à un moment mettre des barrières, c'est un principe de vie ensemble.
Oui, c'est ce que dit clairement la Déclaration des droits de l'homme. Dans son article, il y a question de cette liberté d'expression, sauf à en répondre devant quoi ? Devant les tribunaux. Or, c'est toute la différence, puisque je parlais de Charlie ou même de Dieudonné, d'être traîné devant les tribunaux ou d'être traîné devant une Kalachnikov. La différence entre les deux, ça s'appelle l'état de droit. C'est pour ça qu'on peut pas tout mettre dans le même panier. Le problème pour Charlie, en étant vraiment centré sur l'objet Charlie qui très vite a été dépassé complètement, et là en ce moment on parle de bien autre chose, on parle de la société occidentale à l'époque de Lampedusa, etc. Mais pour continuer sur l'objet Charlie pendant 30 secondes encore, il faut quand même penser que quand Charlie s'est reconstitué, puisqu'il y a eu une période d'interruption de la publication, ça s'est reconstitué dans les années 90 autour de Philippe Val, dans un premier temps la société éditrice s'appelait Kalachnikov Société Anonyme.
C'est ce que j'ai appris dans votre livre.
Ça peut pas s'inventer. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une sorte de logique un peu verbale. Vous savez, c'est comme quand on dit CRS-SS. Et moi, j'ai entendu, en juillet 68 à Avignon, d'où mon allusion de tout à l'heure, j'ai entendu Villard, Béjart, Salazar. Parce que, bon, voilà. Et donc, il y a des moments où, voilà, ça n'a plus beaucoup de sens. Et puis, quand Kalachnikov, c'est vraiment une Kalachnikov, là, il y a une sorte de rappel à l'ordre.
Ouais, la dimension provocatrice du dépôt de nom prend une autre dimension. On va écouter une chanson de Johnny Hallyday qui a été composée par Yodelis avec des paroles de Jeanne Chéral, un dimanche de janvier.
Des millions de regards et de larmes à peine essuyées, des millions de pas sur les boulevards, un dimanche de janvier. J'avais ta main petite dans la mienne recroquevillée, nos cœurs battaient de plus en plus vite ce dimanche de janvier. Là, nous avions marché en silence au milieu de la foule immense, et le vent à notre place chantait sans fin sur la place pour apaiser la peine. Tout un pays soulevé, nous étions venus sans peur et sans haine ce dimanche de janvier, pour garder en mémoire nos héros d'encre et de papier. Nous étions restés debout jusqu'au soir ce dimanche de janvier. Là, nous avions marché en silence au milieu de la foule immense, et le vent à notre place chantait sans fin sur la place.
La valeur de l'homme, les leçons de Charlie. Nous sommes en compagnie de Pascal Horry. On vient d'écouter un dimanche de janvier qui figure sur le dernier album de Johnny Hallyday. Pascal Horry, un petit mot sur cette chanson.
Une chanson qui a été créée, je crois, à peu près au moment du 13 novembre, sans que ça ait été volontaire, et dont l'auteur, enfin, en ce qui concerne le texte, est en moins Johnny lui-même que Jeanne Chéral, qui est loin d'être une chanteuse conformiste, quoi. C'est-à-dire qu'on sent bien que l'émotion a traversé, on pourrait citer Renaud, traversé toutes les familles culturelles et idéologiques. Et il faut se rappeler qu'en termes de politique symbolique, puisque vous et moi, je crois qu'on est assez sensibles à ça, que je crois que c'était le 11 janvier dernier, Johnny a chanté cette chanson Place de la République. Et ça me paraît d'ailleurs très intéressant que cette place soit devenue à ce point iconique qu'en ce moment, Nuit Debout s'y réunissent. Enfin, c'est une longue histoire parce que cette place, pour simplifier, créée par le Second Empire avec un tout autre objet, où les républicains qui arrivent au pouvoir s'y installent et érigent la première grande république, qui est statut de la République stable à Paris. Et puis comment on l'oublie, cette statue de la République, comment ça devient un sens giratoire avec des automobiles, et puis comment la ville de Paris reprend possession sous Bertrand Delanoë de l'espace, et puis arrive effectivement les événements de janvier. C'est une histoire très intéressante et très, en effet, symbolique.
Oui, parce que dans l'histoire de Paris, c'était historiquement la place de Grève, qui était la place des grandes processions, des exécutions, de tous les mouvements. On voit bien ça dans les travaux de Charles Tilly. Puis ça s'est déporté. Vous parlez même d'un totem, hein, mais sans péjoration dans votre texte. Un nouveau totem, cette statue.
De toute façon, les sociétés ont, j'allais dire, besoin, je n'en fais pas la leçon, mais ont besoin de totems. Elles ont besoin de symbolique, c'est-à-dire d'emblématique, de monumental, de lieu de mémoire, hein, regardez ce qui vient de se passer à Verdun, et de rituel, et toutes les sociétés, sans exception, Daesh a ses symboles. Donc on n'y échappe pas, les anarchistes ont leurs symboles, le drapeau noir. Les sociétés ont besoin de symboles, sans quoi elles crèvent.
Ouais, et d'affichage et de communication. Je voudrais qu'on passe à une cinquième leçon, sur ce qu'on pourrait dire de l'individualisme. Il me semble, en vous lisant, qu'il y a un paradoxe, mais que vous allez sans doute lever, Pascal Horry, vous insistez dans votre ouvrage à la fois sur l'individualisme de notre société et en même temps il est beaucoup question d'émotions collectives, de mobilisation massive comme celle du 11 janvier. Comment on marie les deux? C'est-à-dire à un moment vous parlez même de manifestations d'individualistes. Alors comment on comprend les deux et en même temps comment ça marche cette articulation?
Oui, ça m'a sauté aux yeux le soir du mercredi, ça a été amplifié, confirmé le samedi et le dimanche. J'étais non pas devant, parce que j'étais au milieu, hein, je veux pas dire que j'étais un spectateur non concerné, j'étais au milieu de manifestations de masse d'individualistes. Alors l'hypothèse individualiste, c'est pas très original, je veux dire, on l'entend partout, mais c'est pas parce qu'on l'entend partout qu'elle est fausse. Je crois clairement, en Occident du moins, et encore, vous savez, il suffit d'aller en Iran pour voir que l'Iran est extraordinairement individualiste dans les villes iraniennes aujourd'hui. Hein. Enfin, bon, l'Occident est dans une accélération du phénomène d'individuation et en particulier de la philosophie individualiste parce que tout simplement la société, la technologie, la politique cultive cet individualisme. D'ailleurs, il y a une façon pour les médias, par exemple, de rendre compte des grands événements qui est extraordinairement individualiste aujourd'hui. Le souci de la victime, enfin bon, on personnifie, on individualise tout de suite. Et en même temps, face à ceux qui pourraient dire, bah oui, on a compris, éclatement, anomie, etc., voire tribu, bah oui, peut-être des tribus, ça, pourquoi pas, qui seraient des agrégats d'individus, mais aussi capacité de mobilisation à une échelle, 4 millions, vous le rappeliez, exceptionnelle dans l'histoire d'un peuple. Ça me paraît important, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est-à-dire que l'idée que quand même il y a des valeurs votre émission le dit, hein, il y a des valeurs qui sont attaquées, et là, brutalement, les fameuses sociétés dont on dit, vous voyez, elles sont complètement atomisées et anomiques, je dis pas qu'elles se réveillent, elles se révèlent pour ce qu'elles sont. Vous savez, il y a une comparaison qui paraît bizarre, que je faisais un petit peu, toute chose égale par ailleurs, en 1940, qu'est-ce qui pouvait encore risquer, j'allais dire, une livre sterling sur l'avenir de l'Angleterre. L'Angleterre, c'est cette société décadente, libérale, plutôt individualiste, surtout face au régime totalitaire, qui allait être écrabouillée en quelques heures. Eh bien, ça n'a pas été le cas. C'est la société libérale, individualiste, décadente qui l'a emportée sur les régimes militarisés, mécanisés d'en face. Alors, ça fait réfléchir.
Parce que c'est un individualisme qui renverrait à quoi? Au libéralisme, c'est-à-dire finalement à l'attachement à un certain nombre de valeurs libérales, ou bien à un moment, une espèce de capacité à remonter en généralité, à se dire la nation c'est pas inintéressant, le vivre ensemble c'est pas inintéressant, un certain nombre de valeurs ou d'état de droit c'est pas inintéressant.
J'aurais tendance à dire les deux, c'est-à-dire que par exemple démocratie ça ne veut rien dire pour moi si on n'ajoute pas libéral. Alors c'est de quelle démocratie on parle? Par exemple démocratie, c'est absolument pas synonyme d'absence d'autoritarisme. On peut avoir des démocraties autoritaires, des démocraties totalitaires, on le sait bien. Donc de quoi s'agit-il? Et effectivement, on peut imaginer du vivre ensemble, on peut imaginer de grands projets collectifs sur des bases individualistes c'est sans doute le libéralisme qu'il faut interroger. Alors là, vous avez un problème français. Et j'allais dire, ma petite tendance, c'est de penser que les cultures religieuses sont quand même assez éclairantes. La France est un pays dont l'identité est profondément catholique. Hein ? Les États-Unis sont un pays dont l'identité est profondément protestante. Il y a quand même un constat très simple. Je suis étonné qu'on ne fasse pas plus. Il y a eu 4 révolutions fondatrices de la modernité. Les 3 premières étaient protestantes. C'est-à-dire que la révolution, elle s'adossait au protestantisme pour faire la révolution. Et la 4e, c'était la française. Les 3 premières, c'est Provinces-Unies, Angleterre de 1688. Pas celle de Cromwell, je parle celle qui a réussi, celle de 1688. Et États-Unis. La 4e, elle est catholique. Et là, ça se passe mal. Parce qu'effectivement, il y a contradiction. Et la révolution se fait contre l'Église catholique, alors qu'elle s'est fait avec le protestantisme. C'est très frappant. Et donc, ce vieux pays d'État qu'est la France est également un pays profondément anti-libéral. En fait, vous voyez qu'il y a beaucoup de mal à intégrer le libéralisme. Et ça se voit tous les jours, ça se voit en ce moment même, d'ailleurs. Bon, voilà, il y aurait beaucoup de
choses
à dire.
Mais le libéralisme fait retour, par exemple, dans l'idée de tolérance extrêmement forte, et vous avez quelques passages sur, au fond, le fait que le livre de Voltaire, le traité sur la tolérance, est extrêmement bien vendu. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu, janvier 2015, révèle à un moment une réflexion sur comment organiser ce vivre ensemble, et la tolérance est très importante. Et ce qui est intéressant, c'est que la tolérance vient effectivement, voilà, d'une tradition de la réforme et de la lutte contre l'État absolutiste ou contre l'idée d'une religion d'État. Donc on a quand même quelque chose qui se joue là dans l'ordre du libéralisme tolérant ou de la tolérance à la pluralité.
Oui, oui, je pense que sur ce plan-là, les manifestants, les marcheurs, parce que manifestants, oui, ils manifestent, c'est une forme de manifeste au sens de manifeste du Parti communiste, mais les marcheurs de janvier, puis les non-marcheurs de novembre aussi, mais qui ont dit, mais on ne va pas se laisser intimider, on va continuer à aller aux terrasses des cafés, et après, Voltaire, vous avez eu Hemingway, je trouve que c'était pertinent, tout à fait pertinent. C'est pas... Par exemple, on a exhumé Voltaire, on n'a pas exhumé Rousseau, parce que Rousseau n'était pas pertinent en janvier, c'était Voltaire, parce que Voltaire parlait, par exemple, il utilisait un terme qui paraissait complètement obsolète avant janvier, qui était le terme de fanatisme. Alors vraiment, c'était ringard, la problématique du fanatisme. Et puis, bon.
Ça a fait retour. Justement, sur ces manifestants, là, sur ces marcheurs, vous le constatez, c'est vrai qu'on l'avait vu, les manifestations, les marches en tout cas, se sont faites sans mot d'ordre haineux, sans demande de rétablissement de la peine de mort, sans volonté belliciste. Comment est-ce qu'on peut expliquer, Pascal Horry, cette civilisation, entre guillemets, des marches? Ça a été des marches très pacifiques, finalement.
Sans doute quand même parce que cette forme de démocratie libérale, cette forme de tolérance, cette forme de laïcité, c'est quand même enraciné de génération en génération dans un pays comme la France. Et il faut être clair, disons-le, mettons les pieds dans le plat, ce n'est peut-être pas aussi bien enraciné dans certaines autres cultures qui ont encore du chemin à parcourir, je suis désolé de le dire. On a tellement en France été traumatisé dans certaines élites par la décolonisation qu'on a quand même du mal à laisser passer l'idée que, après tout, les cultures ne sont peut-être pas au même stade en ce qui concerne, par exemple, l'intégration des libertés publiques, l'intégration de l'individu. Bon, c'est tout à fait évident. Et je pense que sur ce plan-là, et il y a une sorte de redécouverte, par exemple, du national comme fédérateur, sans le nationalisme. Du libéral sans forcément le libéralisme au sens économique, etc.
Ouais, du patriotisme sans le nationalisme. On va terminer d'ailleurs sur ce point très brièvement. Il faudrait y consacrer toute une émission, mais effectivement, il y a du point de vue des élites ou du point de vue des gouvernants et même généralement une espèce de sous-estimation de l'importance du religieux chez certaines personnes, du soubassement religieux et de tout ce qui va avec, c'est-à-dire des formes de monothéisme intolérant. Là, il y a quand même, on loupe quelque chose dans notre lecture où on ne voit que des déterminants sociaux. On a tendance à ne pas voir du tout ce qui peut être structurant et qui est religieux, Pascal Horry.
Bien sûr, mais sans doute parce que derrière le mot de religieux, c'est comme d'habitude, il faut se mettre d'accord sur les termes, et on n'est pas d'accord. Il faut voir la symbolisation de la société. C'est-à-dire que toutes les sociétés ont leur forme de religieux. Après quoi, je pense qu'il y a eu une vraie révolution culturelle qui s'est appelée le monothéisme. Et j'entends le monothéisme universel, pas le monothéisme juif, à mon avis. C'est très clair dans la manière dont les Romains, il faudrait en parler longuement et on n'a plus le temps à cette minute même, mais dont les Romains pouvaient concevoir le polythéisme. Ça pouvait intégrer le monothéisme juif parce que c'était en quelque sorte le polythéisme des Juifs, quoi.
Bon, ils ont leur dieu à eux.
Bon, ils sont comme ça, ouais. Ils sont bizarres, ils sont comme ça. Arrive l'affirmation chrétienne. Mais là, ça devient tout à fait autre chose. Mais ça, c'est pour une autre émission.
Une autre émission. Je réinviterai son universalisme à ce monothéisme chrétien. Merci beaucoup, Pascal Horry. Cette émission s'achève. Je suis vraiment ravi de vous avoir reçu ici. Je rappelle
moi,
le titre.
Moi aussi.
Merci. Le titre de votre ouvrage, Ce que dit Charlie, 13 leçons d'histoire, aux éditions Gallimard Le Débat en 2016. Merci à Emmanuel Demisco à la technique et à dans 15 jours pour la prochaine émission.